CJR, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis. La conférence de ce jour vous sera présentée pour le pilier développement de l'équipe pays des Nations Unies. Nous avons Joseph Potopoto de l'UNESCO. Pour le pilier humanitaire, nous avons Sylvestre Moudinga de OCHA. La situation sécuritaire et militaire vous sera donnée par le lieutenant-colonel Bass du Sud Mahmoud Mounoubaï. Aujourd'hui, 29 mai, c'est la journée internationale des casques bleus. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa 73e session du 11 décembre 2002. Cette année, la journée des casques bleus sera célébrée avec pour thème « Mission de maintien de paix des Nations Unies, s'adapter aux nouveaux défis ». À Kinshasa, comme dans plusieurs provinces, cette journée sera marquée par différentes activités. À cette occasion, ici à Kinshasa, une cérémonie officielle a été organisée ce matin au bataillon ghanéen. Une journée porte ouverte sur l'action de la MONUSCO aura lieu cet après-midi à la police MONUSCO à Alcatel sur l'avenue Ex-Flambeau, suivi d'une animation culturelle par les étudiants de l'Institut national des arts. Ce sera un sketch et une présentation, un sketch et il y aura une animation par l'orchestre de Radio Okapi. La journée d'aujourd'hui sera également consacrée à l'inauguration, ici au siège des Nations Unies à 17h, de la plaque commémorative en hommage aux casques bleus ayant perdu la vie durant leur service ici en République démocratique du Congo au service de la paix. D'autres manifestations sont organisées à la prison de Ndolo où se déroulent notamment des consultations médicales aux détenus. Il y a aussi une visite d'un projet à impact rapide et un match de volleyball entre les détenus et le personnel pénitentiaire de la MONUSCO. Pour plus de détails, vous pourrez vous procurer le programme qui est disponible à la fin de cette conférence de presse. Sans plus tarder, je passe la parole à Joseph Potopoto.
Le volet sécurisation des instituts du projet Vivre UNESCO RDC est entré dans sa phase opérationnelle ce mardi 28 mai 2013 avec la pause par le ministre de l'EPSP en présence du représentant pays de l'UNESCO de la première pierre pour la construction du mur de clôture de l'État Bruxelles. Les projets Vivre sur financement de la Corée du Sud visent à renforcer les capacités pédagogiques matériel et organisationnel des deux établissements de formation professionnelle de la ville province de Kinshasa dans les domaines de l'agriculture, des travaux publics et du bâtiment. Les Nations Unies, au travers de ses agences UNFPA, UNAIDS, UNESCO, UNICEF et OMS, soutiennent un processus d'engagement des États d'Afrique australe et de l'Est en faveur de l'intégration de l'éducation au VIH et à la sexualité comme approche de prévention pour les jeunes en perspective de l'an de l'après 2015. En vue d'un meilleur soutien à ces processus, l'UNFPA, l'ONU-SIDA et l'UNESCO ont organisé du 23 au 24 mai un atelier pour la validation du rapport pays sur l'état de l'éducation sexuelle et les services de santé et de reproduction en RDC. Les ministères de la Santé, de l'Esprit, de la Jeunesse et des Enfants et Familles, les ONG nationales, les associations des jeunes, la société civile représentée par l'Association nationale de parents des élèves du Congo, les syndicats enseignants du Congo, l'Ordre des avocats, ainsi que les journalistes ont contribué à consolider ces précieux documents. Les rapports répondent les données sur l'éducation de base, l'éducation sexuelle et au VIH-SIDA, les services de santé de la reproduction pour jeunes et l'environnement législatif et politiques en vigueur dans lesquelles s'inscrivent l'éducation sexuelle et les services de santé sexuelle et de la reproduction, ainsi que les domaines sur le genre et la culture liés à la thématique. L'intégration du genre dans la gestion des politiques économiques est au centre d'une série de formations qu'organise le PNUD en collaboration avec ONIFAM et HCR à l'attention des cadres et fonctionnaires des différents ministères sectoriels, ainsi que des membres de la société civile congolaise. Les secrétaires généraux ont ouvert la première session de formation au mois d'avril, suivie par les directeurs d'études et de planification au mois de mai, c'était du 23 au 24 mai 2013. La prise en compte du genre dans le budget de l'État 2014 constitue l'enjeu principal de ce processus qui entend également familiariser les participants avec les concepts de base du genre et économie, les amener à maîtriser les principaux outils ainsi que les démarches relatives à l'intégration de la dimension genre dans le processus de planification des programmations budgétaires et permettre au ministère créé ainsi qu'aux divers partenaires de maîtriser l'utilisation des données statistiques, d'améliorer et d'élaborer leur planification en se basant sur les indicateurs et données éprouvées. À ce jour, 50 cadres ont été formés à Kinshasa et au Katanga par les experts internationaux et ces cadres assurent la pérennisation de l'action au niveau national. 40 secrétaires généraux sont sensibilisés sur la thématique pour leur implication et 94 directeurs d'études et de planification en charge de l'élaboration du budget ont été aussi formés. Merci.
Merci Joseph. Je passe la parole à Sylvestre Boulignan pour les informations concernant la situation humanitaire.
Mesdames, Messieurs la presse, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Capi. La sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des affaires humanitaires et coordinatrice adjointe de secours d'urgence, Madame Kyung-Wa Kang, est arrivée ce matin au sud Kivu. En ce moment, elle se trouve à l'hôpital de Panzi, à Bukavu. Elle visitera également dans cette province, la province de Sud-Kivu, des communautés affectées par les déplacements dans le territoire de Walungu. Hier, Madame Kang était à Goma. Elle a visité le site de déplacés de Sutraki, où plus de 3000 personnes ont trouvé refuge à la suite des récents affrontements entre l'armée nationale et l'M23. Au cours de la visite, Mme Kang a déclaré qu'il est temps de mettre fin à cette crise provoquée par des hommes et a condamné la tuerie des personnes par des obus lors des affrontements en appelant les parties belligérantes au respect du droit international humanitaire. La sous-secrétaire générale Kang est arrivée dimanche à Kinshasa. Lundi, elle a eu des entretiens avec des membres du gouvernement et des acteurs humanitaires dans la capitale. Elle est en mission en République démocratique du Congo pour évaluer la situation humanitaire dans le pays où des millions de personnes sont affectées par un cycle de violence et d'instabilité. Le Programme alimentaire mondial tient à remercier le gouvernement provincial du Katanga qui a remis 750 tonnes de farine de maïs pour compléter les rations alimentaires destinées aux déplacés de guerre dans la province. Ces rations seront distribuées à Kambore, Lubudi et Mitwaba et couvriront le besoin de 61 000 personnes pendant un mois. Ce don s'ajoute à d'autres contributions que la province du Katanga a octroyées au PAM ces deux dernières années. Dans la lettre de remerciement adressée au gouverneur de la province, le directeur pays du PAM, M. Martin Olsen, a souligné que ce genre de contribution témoigne de l'engagement des autorités congolaises à venir en aide aux populations vulnérables du pays et constitue un signal important à tous les donateurs potentiels. Et puis, cette alerte dans la province orientale, 6 cas suspects de la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été rapportés entre le 1er et le 12 mai dans la zone de santé de Mongo, dans le territoire d'Akiti. Nous sommes dans le district du Bas-Ouélé. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, une équipe de la division provinciale de la santé est descendue sur le terrain pour investiguer et prélever des échantillons. Les résultats sont attendus. Pour rappel, l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola avait été officiellement déclarée dans le district sanitaire du Haut-Ouélé le 17 août 2012 et avait pris officiellement fin le 26 novembre 2012. Au cours de cette période, il avait été notifié 62 cas, dont 34 décès. L'épicentre de cette maladie se trouvait à Issou. Voilà.
Merci, Sylvestre. Je passe la parole sans plus tarder au lieutenant-colonel Bass.
Merci, monsieur le porte-parole, et bonjour à tous. Nous démarrons la situation militaire par l'ouest de la République démocratique du Congo, où aucun incident majeur n'a été signalé pendant la période sous examen. En province orientale, la situation sécuritaire a été jugée globalement stable au cours de la période considérée. Le 18 mai 2013, deux filles ont été tuées par un rebelle ougandais de l'armée de résistance du Seigneur LR a blessé lors d'accrochage entre une patrouille des gardes forestiers du parc national de la Garamba et des braconniers de la rébellion ougandaise surpris dans cette réserve nationale. Une arme AK-47 a été également récupérée auprès des rebelles. En Ituri, la situation sécuritaire au sud du territoire du Rumo reste tendue compte tenu de la résurgence d'activités des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Le 25 mai, 205 patients de la région de Mahagui ont reçu des traitements au cours de la campagne médicale hebdomadaire organisée par l'état-major du contingent onusien déployé dans la même région. En Nord Kivu, l'environnement sécuritaire s'est profondément détérioré le 15 mai 2013 à Beni suite à l'attaque lancée par des éléments appartenant au groupe Maïmaï-Hilaire contre le camp Ouzakaf des FRDC. Dans les régions du territoire de Rutshuru occupées par le M23, les enlèvements de civils ainsi que les pillages récurrents perpétrés par les éléments de ce mouvement rebelle demeurent une source de préoccupation majeure au plan sécuritaire et à celui du respect des droits de l'homme. Par ailleurs, après 6 mois de trêve, des combats opposés du 20 au 22 mai 2013, des M23 au FRDC dans la région de Mutaro, située à 4 km de Kibati et sur les collines de Mouncha. Le 22 mai, après 7 tentatives infructueuses du M23 pour s'emparer des positions FRDC sur la colline de Boutaro, le M23 a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Les troupes des FRDC ont fait usage de lance-roquettes multiples, de mortiers, de lance-roquettes et d'hélicoptères d'attaque contre les positions rebelles et conservent à ce jour leur position à Boutaro. Face à l'intensité des combats, environ 800 personnes en provenance de Kibati se sont déplacées en direction de la capitale provinciale. La MINUSCO a mis en œuvre le plan de défense de Goma et placé toutes les unités d'intervention rapide en alerte maximale, ainsi que les positions de Moudigui et les unités de la MINUSCO basées à l'aéroport de Goma. Une surveillance aérienne ininterrompue a été menée dans le but de surveiller de manière étroite l'évolution de la situation sur le terrain. Le 21 mai, 4 roquettes tirées par le M23 à partir des collines de Kibati en direction des hauteurs de Moudja sont tombés à proximité du camp des déplacés de Mugunga 3, tuant une fille, blessant un enfant et provoquant le regroupement d'environ 3000 déplacés auprès de la base onusienne déployée dans cette localité. Le 22 mai 2013, 2 autres roquettes tirées par le M23 pour riposter à l'artillerie des FRDC sont tombées dans le quartier Ndoshu de Goma, tuant un civil et blessant 4 autres. Les opérations unilatérales dénommées Wide Awake, Formidable et Silent Guns continuent d'être menées par la brigade de la MINUSCO du Nord Kivu dans le but de contrer toute menace des groupes armés contre la ville de Goma, notamment les M23, et maintenir une sécurité optimale dans et autour de la capitale provinciale. Le 28 mai, des combats ont éclaté entre les rebelles du M23 et les éléments du groupe Hutu, Force pour la défense des intérêts du peuple congolais FDIPC à Bunagana, au cours desquels 3 FDIPC et 11 rebelles du M23 ont été tués, notamment un commandant de ce groupe rebelle. Du 12 au 26 mai, au total 91 éléments en provenance de différents groupes armés se sont rendus aux troupes onusiennes et aux FRDC déployés dans la région. Il s'agit de 5 FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, 19 éléments du M23, 47 des différents autres groupes Maïmaï et 21 éléments patriotes résistants. Maïmaï, PRM et UPCP. Au sud Kivu, la situation sécuritaire demeure sous le contrôle des forces onusiennes congolaises en dépit d'un environnement sécuritaire volatile et imprévisible. Le calme relatif observé à Bukavu a été perturbé en fin de semaine par des manifestations violentes initiées par des jeunes Banyamulenge qui protestaient contre des civils infligés à un des leurs. Le bilan fait état de 40 blessés. La police onusienne et la police nationale congolaise déployées à cet effet ont pu ramener le calme dans la ville. Du 21 au 24 mai, au total 28 éléments en provenance de différents groupes armés se sont rendus aux troupes onusiennes et aux FRDC. Il s'agit de 3 FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, et 25 autres de divers groupes armés. Depuis le 19 mai 2013, la force de la MINUSCO poursuit la conduite de ses 11 opérations unilatérales dans les différents territoires de la province du Kivu. Depuis, au Katanga, la situation sécuritaire demeure volatile et imprévisible. L'environnement sécuritaire dans le secteur 2 a aussi été jugé relativement calme durant la semaine écoulée. Et enfin, concernant les statistiques de patrouilles, nous avons mené 1337 patrouilles armées, dont 686 nocturnes, et fourni 55 escortes, pendant que 318 autres patrouilles ont été menées par les observateurs militaires de la force. Je vous remercie.